Amen. Amen, alléluia. Je vous invite à ouvrir la parole de notre Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 11, où nous aurons une lecture un peu longue, mais cependant très profitable et très bénéfique. Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Et maintenant, nous lisons encore un petit bout dans le chapitre 12, verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. » Amen. Et nous relisons donc le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et voilà, je crois, un passage qui peut paraître surprenant au premier abord parce que Jésus aime tous les hommes. Il aime tous les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, n'est-il pas vrai ? Il dit encore, l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Christ a donné sa vie pour nous. Donc cette réalité de l'amour pour les hommes, pour tous les hommes, elle est bien présente. Mais cependant, dans cet évangile, c'est le même évangile de Jean, il y a Jean, le disciple que Jésus aimait. Ça veut déjà dire qu'il y a des degrés de l'amour de Jésus pour les hommes. Voyons cela. Celui que tu aimes, est-il écrit là, et cette fois-ci, ce sont donc deux femmes, deux croyantes, qui mettent hardiment en avant cette appellation, cette affirmation, en adressant leur demande, leur message à Jésus. Et ça paraît faire une différence entre lui et d'autres qui l'aimeraient moins ou qui n'aimeraient pas de la même façon. Y aurait-il des préférences dans l'amour de Jésus pour les hommes? Vous savez que l'Écriture nous dit que Dieu ne fait pas exception de personne. On se souvient de cela, et si effectivement c'est le cas, mais ça veut dire qu'il y a des raisons précises pour lesquelles Lazare peut être appelé justement celui que tu aimes. Et il nous faut donc trouver ces raisons, et il nous faut autant que possible les mettre en œuvre dans notre propre vie à chacun. D'autre part, lorsque vous regardez le verset 5, il nous a dit clairement deux choses. Nous lisons ce verset. « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Deux choses qui nous sont dites. Tout d'abord, que cette appellation à propos de Lazare, donc, n'est pas une vantardise, ce n'est pas une exagération. Jésus aimait vraiment Lazare d'une manière spéciale. La manière dont c'est écrit dans le verset nous le montre bien. Et en plus, Marthe et Marie était l'objet de sa part d'un pareil amour. Et là encore, le verset le montre bien par la façon dont les choses sont écrites. C'est donc aussi dans ce qui est écrit, ce qui est écrit à leur sujet, que nous devons rechercher les raisons de cet amour spécial à leur égard, de la part du Seigneur, et de cet amour, bien sûr, pour nous, si désirable. Et c'est pour cela que nous aurons deux grands points dans la suite de notre prédication. Nous parlerons tout d'abord des caractères de leur amour pour Jésus, et puis nous parlerons ensuite des caractères de l'amour de Jésus pour eux. Voilà, c'est pas compliqué. Donc en premier, quels sont les caractères de leur amour pour Jésus? Déjà, nous voyons que c'était eux qui recevaient Jésus avec ses disciples dans leur maison. Ça nous est dit dans un autre passage, Luc chapitre 10, verset 38, que nous ne lirons pas aujourd'hui. Mais quand même, vous imaginez que ça représentait déjà une belle équipe, tous ceux qui le recevaient ainsi. Une belle équipe missionnaire. Et non pas seulement une fois de temps en temps, non pas seulement occasionnellement, mais fidèlement, régulièrement, à chaque fois que Jésus et les siens passaient, qu'il le fasse en prévenant ou sans prévenir, et probablement plus souvent était-ce la deuxième situation, ils étaient disponibles, joyeusement disponibles, heureux d'être disponibles pour le Seigneur, heureux d'être ainsi à son service et conscients du privilège d'être ainsi ouvriers avec Dieu. Amen. Et même quand cet accueil a présenté de grands risques, comme peu de temps avant la crucifixion, lorsque vous lisez au chapitre suivant, vous voyez que les Juifs qui étaient contre le Seigneur étaient, envisageaient même la possibilité de tuer Lazare. Hein, donc ça présentait quand même des risques. Malgré tout, ils ont persévéré dans cet accueil, comme auparavant, avec autant de joie et autant d'ouverture pour le Seigneur. Amen. Donc une première manifestation de leur amour pour lui. Et ensuite, voyez la façon, souvenez-vous plutôt de la façon dont Marie écoutait les paroles de Jésus. Ça aussi, c'est une manifestation d'amour. Hein. C'est dans Luc chapitre 19, chapitre 10, verset 39 et suivant. Donc, et nous nous souvenons qu'elle était là au pied de Jésus et qu'elle l'écoutait avec une attention soutenue et qu'elle buvait littéralement la parole de Dieu, qu'elle était tellement absorbée qu'elle oubliait tout le reste, que ça avait plus d'importance pour elle que la préparation de la nourriture ou que quoi que ce soit d'autre. Et en cela, elle a reçu une pleine approbation de la part de Jésus. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Et c'est aussi à cause de cet attachement profond à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, donc cet attachement qui débouche sur une obéissance du cœur et qui se traduit dans les actes, que Jésus va aussi s'attacher spécialement à eux. Dans le chapitre 14, au verset 21, il est marqué « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Voyez-vous ? Donc, voyez là encore une raison d'attachement. Et vous avez encore cet autre passage au verset 23 du chapitre 14. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Qu'il puisse en être ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Et puis, une troisième description d'un aspect de cet amour, c'est ce qu'il en est de Marthe, parce qu'il ne faut pas sous-estimer Marthe. Hein. Nous savons que Jésus a dû à un moment la reprendre avec affection, avec douceur, et qu'il a dû lui dire « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Hein. » Donc, malgré tout, ici dans notre texte, quel exemple de foi et quel exemple d'amour elle nous donne dans l'entretien qu'elle a avec Jésus après la mort de son frère. Hein, nous le voyons. Elle va au devant de Jésus, c'est au verset 20, chapitre 11, pour bien s'assurer, bien l'assurer de leur bonne disposition et l'accueillir spécialement malgré les circonstances. Et ensuite, elle va lui parler avec franchise et douceur, comme on le voit, comme il est bon entre véritables amis dans des circonstances délicates. Elle va lui dire tout son regret qu'il n'ait pas été là, qu'il ne soit pas venu plus tôt, mais nous voyons bien qu'il n'y a pas en elle de ressentiment, il n'y a pas en elle le moindre soupçon, elle ne l'accuse pas. Elle ne sait pas quelle est la raison pour laquelle Jésus n'a pas répondu plus tôt à leur message pressant, mais elle ne se permet même pas de poser de questions. Ça nous montre bien à la fois sa discrétion et sa délicatesse. Et puis d'autre part, nous voyons qu'elle lui fait confiance. Elle croyait qu'il ne pouvait pas en être autrement. Elle ne juge pas Jésus. Et c'est vrai que dans une telle situation, eh bien, s'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas cet amour, combien il serait difficile, hein, difficile de bien gérer les choses. Mais vous savez, ça c'est quand même un grand point. Ceux qui font confiance au Seigneur, même s'ils ne comprennent pas sur le coup ce qui leur arrive, ceux qui ne comprennent pas sur le coup pourquoi Dieu permet ceci ou Dieu permet cela, pourquoi Dieu ne paraît pas répondre à la prière pour le moment, pourquoi on se retrouve dans telle épreuve et pourquoi elle paraît si longue. Ceux donc qui malgré tout lui font pleinement confiance et s'attachent d'autant plus à lui et l'aiment d'autant plus, eh bien ceux-là vont faire l'expérience que non seulement le Seigneur leur donnera mieux que s'il n'avait pas eu, pas eu cette épreuve, s'il n'avait pas eu ce grand questionnement, mais il va leur donner le meilleur. Amen. Hein ? Dans ce cas, c'était la résurrection de leurs frères qu'elles ont reçue. Elles ne s'y attendaient pas. Il va leur donner beaucoup mieux que ce qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pas eu cette épreuve. Et vous avez d'autres exemples dans l'Écriture. Considérez le cas de Joseph, rappelez-vous. Hein ? Donc, vendu injustement par ses frères comme esclave, emprisonné encore plus injustement pendant des années sur la base de déclarations fausses et calomnieuses, hein, donc oublié ingratement dans la prison par un homme pour lequel il avait pourtant été un grand moyen de bénédiction, mais Joseph n'attribua rien d'injuste à Dieu. Hein, nous le voyons, Joseph se fortifia dans la foi au travers de l'épreuve. Joseph développa sa communion avec Dieu dans cette situation d'injustice. Joseph continua à se former et à se laisser former pour le service de Dieu et par le Seigneur. Joseph s'attacha avec amour au Seigneur de plus en plus. Amen. Et quand d'un seul coup vint la délivrance, parce que c'était d'un seul coup, sans crier gare et sans prévenir, que Joseph est passé du statut de prisonnier au statut de grand vizir, de premier ministre de l'Égypte. Hein, donc voilà, d'un seul coup ça s'est produit, alors quel honneur et quelle gloire inimaginable, inattendu auparavant, hein, on le voit bien. Donc quelle puissante manifestation de l'approbation de Dieu, quelle place prééminente dans l'œuvre de Dieu et dans l'accomplissement du plan de Dieu, quels extraordinaires exaucements et réalisations de la prophétie qui avait été faite bien des années auparavant concernant Joseph. Et donc, ce que Joseph a obtenu a été bien meilleur parce qu'il avait pleinement fait confiance à Dieu, même sans comprendre. Amen. Et considérez le cas de David. Le cas de David. Quelle belle promesse de royauté lui ont été faites, voilà, au travers de ce qui lui a été dit par le prophète Samuel, et qui a été confirmé ensuite par la victoire sur Goliath et bien d'autres victoires, en particulier sur les Philistins. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment ? Voici la jalousie, les intentions, les tentatives meurtrières de Saül, et voilà que David est obligé de s'enfuir éperdument pendant des années pour sauver sa vie, dans des conditions extrêmes, très difficiles, avec bien souvent un seul pas entre lui et la mort. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela ? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas, ou apparemment toujours juste à l'extrémité et jamais pour une délivrance vraiment complète, toujours juste pour le sortir de la situation du moment, mais en lui laissant quand même dans le problème général dans lequel il se trouvait. Mais vous savez, David, pendant ce temps-là, il va faire des expériences uniques, des expériences salutaires qui vont le marquer à salut, donc pour la suite de sa vie. C'est là qu'il va écrire plusieurs de ses plus beaux psaumes, dans cette période-là, et ça démontre l'œuvre spirituelle magnifique que le Seigneur fait dans sa vie. Et ça va être, ces psaumes, un moyen d'incalculable bénédiction pour des générations successives de croyants jusqu'à aujourd'hui. Hein, lorsqu'on lit ces psaumes, lorsqu'on les entend, lorsqu'on les médite, donc, et nous voyons que la foi de David a ainsi merveilleusement grandi, sans parler de son amour pour le Seigneur. Et David, donc, verra toutes les promesses du Seigneur se réaliser pour lui de façon admirable. Et ces derniers psaumes, les derniers qu'il a écrits en particulier, montrent l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, de triomphe et de gloire qui est le sien à la fin de son séjour terrestre, que notre fin soit semblable à la sienne. Amen. Mais j'avance encore et je considère le cas de Daniel, parce que contre lui aussi, eh bien, il y a bien des difficultés. Il pouvait se poser bien des questions, hein, puisque Dieu, sans lui donner d'explication, a permis qu'il soit arraché d'un seul coup à son pays, à sa famille, à la maison de ses pères, et ceci dans sa jeunesse, et qu'il soit exilé à Babylone, qui était la capitale païenne et idolâtre d'un des empires les plus brutaux et les plus tyranniques de l'histoire du monde. Hein, nous voyons cela. Mais Daniel et ses amis, eh bien, vont s'attacher au Seigneur d'autant plus fermement. Et nous voyons qu'ils ont pris, il a pris en particulier, des résolutions de consécration, d'engagement au service de son Dieu. Il s'est attaché avec force à la parole de Dieu et à la prière. Il a pris position très clairement pour son Dieu, au risque de sa vie, en diverses situations. Et nous voyons que Dieu déjà le secourt et le délivre dans les épreuves qu'il traverse. Mais le meilleur, et de loin le meilleur, est encore devant lui. C'est après que Dieu va lui accorder les extraordinaires révélations que vous trouvez dans la deuxième partie du livre du prophète Daniel, en particulier concernant la venue de Christ, en concernant la fin des temps, et qui place Daniel dans une position à part, même parmi les autres prophètes de l'Ancien Testament. Et puis en plus, c'est lui, Daniel, que Dieu va placer comme le premier moyen d'obtenir le retour d'Israël de l'exil pour qu'il puisse revenir à Jérusalem. Il va être aussi comme le chef de file de ceux qui seront les acteurs de ce retour. Et là, j'ai nommé Zorobabel, j'ai nommé Esdras, Néhémie, et puis les prophètes qui les ont accompagnés, en particulier Agé, Zacharie, et puis après Malachie. Et certainement, jamais Daniel n'aurait pu imaginer les choses merveilleuses que Dieu préparait, avait en vue pour lui, alors qu'il attendait avec confiance, même sans comprendre. Il attendait avec confiance tout ce temps-là, même sans comprendre. Mais parce qu'il s'est attaché à ce Seigneur, qui lui a fait pleinement confiance sur la durée, eh bien, les bénédictions qui s'en sont suivies ont été d'autant plus extraordinaires. Amen. Et nous ne pouvons pas quitter notre sujet sans parler de Job, parce qu'il en est un qui a dû attendre, et dans une terrible série d'épreuves, et sans comprendre ce qui lui arrivait, et sans entendre de réponse divine à ses cris de détresse pendant tout un temps, et sans avoir de réelle compréhension et consolation de la part de ses amis, eh bien oui, c'est bien lui. C'est bien lui, et Dieu a permis qu'il touche le fond, sans lui dire ni comment ni pourquoi, sans lui dire les enjeux considérables qu'il y avait derrière ce qui lui arrivait. Mais il nous a dit que dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu, même s'il a eu bien des cris de détresse. Même s'il a eu de grandes interrogations, il est resté attaché à son Sauveur. Voyez-le dire avec conviction, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Alléluia. Et voyez la fin glorieuse et admirable que le Seigneur lui a accordée ici-bas, et seule l'éternité pourra nous dire la grandeur de la défaite et même de la déconfiture qui a été infligée au diable ce jour-là, parce que Job avait fait confiance à son Seigneur, même sans comprendre. Amen. Amen. Alors nous en revenons maintenant à Marthe, rappelant là aussi, démontrant son amour pour Jésus, affirmant sa foi dans l'efficacité de la prière de Jésus, même dans cette situation. Au verset 22, on le voit, même si elle ne pense pas que son frère va forcément ressusciter à ce moment-là. On voit bien qu'elle n'a pas pensé ça, puisque au verset 39, elle a dit, elle a élevé une objection, disant « Mais Seigneur, il sent déjà. » Malgré tout, elle croyait. Elle croyait que la prière de Jésus était efficace. Alors, qu'est-ce qu'elle avait dans l'esprit? À quoi pensait-elle? Peut-être au soutien particulier de Dieu qui allait leur être apporté dans cette terrible épreuve suite à la prière de Jésus. Ou pensait-elle peut-être au secours matériel dont elle allait avoir besoin pour l'avenir? Elles allaient avoir besoin pour l'avenir maintenant qu'il n'y a plus d'homme à la maison. Ou pensait-elle à la révélation de Christ en tant que Messie qui peut tout changer dans le monde en général, et pour elle en particulier? Ou, sans avoir peut-être d'idée particulière, se remettait-elle entièrement entre les mains de Jésus, sachant qu'il va prier pour elle pour le meilleur, et qu'ainsi, pour elle et sa sœur, le meilleur va se réaliser. Amen. De toute manière, elle a une pleine foi dans la puissance et dans l'efficacité de cette prière de Jésus. Et combien là aussi il faut qu'il en soit de même pour nous, et qu'ainsi nous puissions surmonter victorieusement les épreuves et les difficultés, et aimer de mieux en mieux notre Seigneur. Amen. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les combats. Je vais lire ce témoignage qui a été donné par Algérius, qui était un martyr, qui a été brûlé à Rome en 1557, et voilà ce qu'il écrivait peu avant son supplice. « Je vais raconter quelque chose d'incroyable. c'est que j'ai trouvé une douceur ineffable dans la carcasse du lion. Qui croira ce que je vais dire ? Oui, qui le croira ? Dans une sombre caverne, j'ai trouvé joie et délices. En un lieu d'amertume et de mort, paix et espoir de salut. Félicité dans l'abîme et le gouffre infernal. Où d'autres gémissent et pleurent, j'ai rencontré la joie. Où d'autres tremblent, j'ai trouvé la force. Qui croira jamais que dans la position la plus misérable, j'ai trouvé l'abondance de plaisir ? Que dans le coin le plus isolé, j'ai joui de la société la plus magnifique ? Que dans les fers les plus durs, j'ai goûté le plus doux repos ? Tout cela, mes chers frères en Jésus-Christ, c'est la bonne main de Dieu qui me l'a accordé. Voici celui qui était jadis loin de moi, est à présent tout près de moi. Et celui que je ne connaissais qu'imparfaitement, je le vois maintenant distinctement. Celui que je n'apercevais que de loin, je le contemple à présent comme devant moi. Il me console, il me remplit de joie, il chasse loin de moi toute amertume, il renouvelle ma force et mon courage, il me guérit, me restaure, m'assiste, me fortifie. Oh, que le Seigneur est bon de ne pas permettre que ses serviteurs soient tentés au-delà de leur pouvoir. Oh, que son joug est facile, qu'il est doux, qu'il est agréable. Qui est semblable au Tout-Puissant, qui fortifie et restaure les affligés, qui guérit les cœurs tristes et meurtris et les rétablit tout ensemble. Non, rien ne lui est comparable. Sachez, mes chers frères, combien le Seigneur est riche en pitié, qu'il est fidèle et miséricordieux. Celui qui visite ses serviteurs dans leurs épreuves s'abaisse et condescend à venir habiter dans nos cabanes et dans nos misérables demeures. Il nous donne un courage joyeux et des cœurs remplis de paix. Lettre datée du précieux paradis des délices, la prison de Léonie, le 12 juillet 1557. La fidélité de Dieu jusqu'au bout. La grâce de Dieu puissante et secourante. Amen. Et j'en reviens à Marthe donc, qui affirme sa foi en la résurrection de Lazare, même si pour elle c'est à ce moment-là, au dernier jour, mais malgré tout elle l'affirme. Mais dans la foulée, elle affirme aussi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Et elle le fait au milieu même de cette souffrance qu'elle traverse. Elle le fait malgré les questions, pour le moment sans réponse, que lui pose l'attitude de Jésus. Elle le fait au milieu de cette atmosphère d'hostilité contre Christ, de contradiction, d'opposition à l'égard de Jésus, dans laquelle elle se trouve, dans laquelle elle vit à ce moment-là. Amen. Voyez aussi, voyez encore, le profond attachement qu'elle a pour sa sœur Marie. Verset 28, elle l'appelle secrètement pour la faire aller vers Jésus. Vous savez, Marie était comme prostrée puisqu'elle était restée assise, même en apprenant la venue de Jésus. Et Marthe l'envoie vers Jésus pour son bien à elle déjà. Et en même temps, elle l'envoie pour réjouir le Seigneur, pour qu'il voie aussi de sa part un acte d'affection. Nous voyons que Marie va tomber aux pieds de Jésus en pleurant. C'est ce qu'on voit au verset 32 et 33. Et elle va prononcer, remarquez bien, exactement les mêmes paroles que Marthe avait prononcées, donc, mais pas de la même façon. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il n'y a pas de révolte en elle, on le voit à la façon dont elle tombe aux pieds de Jésus. Simplement un immense chagrin qu'elle confie au Seigneur et elle s'abandonne entièrement à lui. Alors c'est vrai que dans cette situation, c'est Marthe qui paraît un peu plus en avant que Marie, même si Jésus doit la reprendre doucement pour l'encourager à croire, afin de voir la gloire de Dieu, comme on les voit dans les versets 39 et 40. Voilà, malgré tout, voyez les démonstrations de cet amour pour Jésus. Mais un peu plus tard, et c'est notre quatrième point à ce sujet, c'est cependant Marie qui va prendre une initiative d'amour et d'adoration particulièrement bienvenue. C'est pour ça qu'on a lu les 8 premiers versets du chapitre 12. Et ça, c'est quelque chose qui demeure et qui demeurera toujours incompréhensible pour ceux qui n'ont pas dans leur cœur un grand amour pour Christ. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va faire sacrifier ce parfum de grand prix. C'est un sacrifice de grand prix. Pourquoi ? Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est présent avec eux. C'est ce qu'on voit au verset 3, au verset 8. Elle s'est posé la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour Jésus ? Comment est-ce que je vais pouvoir lui prouver mon amour ? Comment est-ce que je vais pouvoir lui faire plaisir ? comment vais-je pouvoir le réjouir ? Voyez-vous, hein ? Ça, c'est des questions qu'on se pose lorsqu'on aime quelqu'un, n'est-il pas vrai ? Hein ? Donc, elle voit cela. Donc, et le sacrifice qu'elle fait, c'est un sacrifice d'adoration. Il nous est dit qu'elle a oint ses pieds. Dans les passages parallèles de Matthieu et de Marc, il est écrit qu'elle l'a aussi oint sur la tête et quel parfum de beau d'honneur s'est élevé alors. Il est marqué que toute la maison en a été remplie. N'est-ce pas pour nous une image du sacrifice de prière, de louange et d'adoration que nous lui offrons par amour ? Vous savez, dans l'Apocalypse, il est décrit qu'il est parlé de ces coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Le véritable et pur amour pour Jésus ne doit-il pas se montrer par une adoration en esprit et en vérité ? Alléluia. Amen, c'est ce qu'on voit. Et que voyons-nous encore ? Nous voyons encore un sacrifice d'humilité de sa part. Chapitre 12, verset 3, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Rappelez-vous, Jésus, un peu plus tard, va prendre un linge dont il se ceindra, il lavera les pieds de ses disciples pour leur apprendre à se servir les uns les autres avec humilité. Mais elle, remarquez bien, elle ne prend pas d'eau. Elle prend le parfum le plus précieux qu'elle puisse avoir. Elle ne prend pas de linge. Elle prend ses cheveux, la parure la plus précieuse qu'une femme puisse avoir. Et avec cela, elle sert le Seigneur dans l'humilité, dans l'abaissement, dans l'amour profond. Amen. Oh mes sœurs, ne vous laissez pas dépouiller par le diable de la parure la plus précieuse que vous puissiez avoir. Hein. Dans Matthieu 26 et dans Marc chapitre 14, les deux passages parallèles, il nous est écrit que chaque fois que l'évangile sera prêché, en esprit et en vérité, en amour et en plénitude, on racontera en mémoire de Marie ce qu'elle a fait à cette occasion-là. Amen. Hein. Et que nous puissions nous mettre chacun et demeurer dans les conditions matérielles et spirituelles qui lui ont permis d'accomplir cet acte d'amour incomparable. Vous savez, quand il nous est dit que Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples en leur lavant les pieds, c'est dans Jean chapitre 13, verset 1, ne peut-on pas dire que cette femme a mis le comble à son amour pour Jésus en essuyant le parfum coulant de ses pieds avec ses cheveux. Amen. Voici donc concernant leur amour pour Jésus. Et puis parlons maintenant des caractères de l'amour de Jésus pour eux. Et là, nous avons trois choses à voir. Déjà, la première, c'est que Jésus les aime ensemble. Et j'en reviens au verset 5 du chapitre 11. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Remarquez bien ce qui est écrit. C'est très frappant. Il décrit qu'il les aime chacun séparément, parce qu'il prend la peine de les noter à part l'un après l'autre. Mais il les aime aussi les trois également. Et la conjonction « et » qui est là, qui sépare chaque nom, nous le montre bien. Ça veut dire que l'ordre dans lequel leurs noms sont cités, de ce point de vue-là, n'a pas de signification. Et puis, il les aime aussi les trois ensemble. Il aime l'ensemble des trois, pourrait-on dire, hein. Parce que vous avez là ces conjonctions de coordination et qui sont là. Hein, donc, ils font une merveilleuse équipe. Et Jésus les aime d'autant plus qu'ils font partie de cette équipe. Amen. Hein, donc, et voilà quelque chose de remarquable pour nous parce qu'ils sont quand même différents les uns des autres en ce qui concerne leur caractère. Ça peut les amener à des désaccords à certains moments. Par exemple, rappelez-vous ce qui est dit en chapitre 10, verset 38 au verset 42, concernant Marthe et Marie. Hein, donc, mais ils savent se réconcilier rapidement quand c'est nécessaire et sans arrière-pensée, ils forment une véritable unité de service pour lui, une équipe soudée pour faire sa volonté. Ils forment une unité d'amour et c'est pour lui. Amen. Et ils s'acceptent pleinement l'un l'autre malgré leurs différences de caractère, de façon de faire, à cause de leur consécration et de leur amour commun pour lui. Amen. Amen. Et prenons garde pour nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah ben moi, voilà, il y a du manque d'amour, je ne sais pas moi, dans cette église ou dans ce groupe, je ne sais pas. Mais vous savez, est-ce qu'on voit toujours la réalité de l'amour qui nous est apporté ? Vous savez, les gens, ils ne veulent pas le voir parce qu'ils veulent être aimés de la manière qui leur convient à eux, sur le moment, hein. Vous en avez, ils sont fixés, voilà, sur leurs idées, sur leurs conceptions, sur leur personne, et ils ont beaucoup de mal à changer pour s'adapter aux autres. Hein, donc, et la question, c'est ça. La question, c'est de se poser à chacun d'entre nous, est-ce que je suis constructif ? Est-ce que je veux en prier, priorité, pardon, apporter aux autres ou bien qu'on m'apporte à moi? Est-ce que j'ai vraiment le souci des autres, le souci de leurs besoins, l'intérêt pour les autres? Est-ce que je prie vraiment pour les autres? Est-ce que je prie pour eux de tout cœur? La qualité de l'amour de Jésus pour nous, ou je dirais la manifestation de l'amour de Jésus pour nous, dépend ainsi beaucoup de la qualité de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. C'est important, vous ne pouvez pas empêcher cela. Ensuite, une deuxième chose qu'on voit concernant l'amour de Jésus pour eux, c'est que Jésus va avoir un entretien personnel avec les deux. Un entretien adapté à chacune, un entretien vraiment personnalisé, comme on dit. Donc, il va parler avec Marthe et lui dire tout ce qu'elle a besoin d'entendre, tout ce dont elle a besoin pour être encouragée, pour être fortifiée dans la foi. Déjà, remarquez qu'avec Marie, il ne dit rien. Avec Marie, il ne dit rien, mais comme il va mettre en pratique son propre commandement, pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Et quelle bénédiction ineffable elles vont retirer chacune de ce tête-à-tête avec Jésus, preuve de son amour et de ses soins particuliers pour chacune d'elles. Amen. Et c'est ce que le Seigneur aussi veut faire pour chacune et chacun d'entre nous. Béni soit son nom. Alléluia. Et voyez aussi, on voyez encore, que Jésus va accomplir ce miracle extraordinaire en leur faveur. Et il y a des fois certains qui disent, Dieu, il fait des miracles pour les inconvertis ou pour les nouveaux convertis, pour les amener à lui. Les plus grands miracles, c'est à ce moment-là qu'ils se font. Bon, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir, dans bien des situations, que Dieu a fait de grands miracles pour des personnes qui ne connaissaient pas l'Évangile, pour les attirer à lui. C'est vrai, c'est vrai. Mais rappelons-nous quand même que le désir de Dieu, c'est de faire les plus grands miracles pour ceux qui se confient en lui et pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est quand même une réalité. Vous avez cette démonstration dans notre texte. Et Jésus les aime. C'est sûr et certain qu'il les aime. On le voit. Celui que tu aimes est malade, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 11 encore, vous retrouvez cela. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et un petit peu plus loin encore, vous retrouvez ça. Donc, vous savez, mais le Seigneur, lui, il veut préparer pour les siens. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Oui, il y a des choses spéciales, des choses préparées. Un amour merveilleux que le Seigneur désire manifester à ses enfants. Et nous voyons ainsi, là aussi, donc, cet amour qu'il a eu pour les trois aspects de cet amour qu'il a eu pour eux. En conclusion, que dire? Voilà un passage qui est rempli de l'amour de Jésus. Amour affirmé, amour manifesté, comme nous le voyons dans cette œuvre de résurrection et tout ce qui l'entoure. Et puis aussi un amour pour Jésus. Un passage rempli de l'amour pour Jésus. Alors que nous puissions nous aussi, frères et sœurs, chacun pour notre part et ensemble, chercher, approfondir, cultiver un amour de la même qualité, un amour de la même valeur que celui de Marthe et de Marie et de Lazare. Car que de raisons excellentes et nombreuses nous avons pour cela. Et je voudrais vous lire un passage qui s'intitule « Grâce sans mesure » qui a été écrit par John Spencer, un homme de Dieu, déjà anciennement, mais voilà ce qu'il nous rappelle à ce sujet pour nous faire prendre conscience ou plus profondément conscience de toutes les manifestations de l'amour du Seigneur envers nous. Toutes les bonnes choses que nous possédons ici sur cette terre n'ont qu'une vertu limitée. Certaines peuvent nous vêtir, mais ne pas nous alimenter. D'autres peuvent orner notre vie, mais ne nous aident pas à avancer. Toutes ont leur usage et leur utilité, mais aucune ne satisfait vraiment. Elles sont comme un manteau rapiécé, ne pouvant ni nous défendre contre le froid, ni couvrir notre laideur naturelle. Mais Christ, lui, est suffisant pour toutes choses. Il est la justice de ses enfants, couvrant tous leurs péchés. L'abondance, qui suffit à satisfaire tous leurs besoins. La grâce, suffisante pour triompher de leurs convoitises. La sagesse, capable de vaincre tous leurs ennemis, la vertu efficace pour guérir leurs maladies, la plénitude enfin qui suffit pour les sauver parfaitement, ou comme dans Hébreux 7, verset 25, on peut traduire aussi, les sauver jusqu'à l'extrême limite. Il est le pain, le vin, l'eau vive qui nourrit et désaltère à la fois. Il est le vêtement parfait, la robe de justice qui les couvre et les protège, le médecin qui les guérit, le conseiller qui les dirige, le capitaine qui les défend dans le combat, le prince qui les gouverne et le prêtre qui a fait l'expiation de leurs péchés. Il est en même temps l'époux plein de tendresse qui les protège, le père qui pourvoit à tout pour eux, le frère qui secourt, le fondement qui supporte l'édifice de leur vie, la racine d'où l'arbre tire sa vie et la tête qui gouverne tout le corps, le trésorier qui les enrichit, le soleil qui les éclaire, la source qui les purifie. Ainsi, de même que l'océan contient plus d'eau que tous les fleuves du monde entier, et un seul soleil plus de lumière que tous nos luminaires ensemble, ainsi Christ et lui tout seul représentent davantage pour chacun de ses enfants que s'ils possédaient tous les mondes de l'univers. Amen, amen. Et nous voici avec des raisons de le bénir, nous voici avec des raisons de l'aimer, nous voici avec des raisons de nous attacher à lui de plus en plus, et nous pouvons aussi le faire maintenant dans ce moment de louange et de bénédiction qui est devant nous. Te remercions, Seigneur, et nous te rendons grâce. Tu es toujours fidèle et bon, Seigneur. Combien nous avons besoin encore de le réaliser, beaucoup plus encore. Merci, notre Dieu. Alléluia. C'est toi qui mets ta bonne main sur les tiens. C'est toi qui as manifesté ton amour, Seigneur, et qui veux encore le manifester. C'est toi qui as accompli pour nous tant de choses précieuses et glorieuses. Merci, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia, tu nous attaches à toi, Seigneur. Tu nous fais grandir dans cet amour pour ta personne bénie, Seigneur Jésus. Tu nous fais suivre cet exemple de Marthe et de Marie en particulier, de Lazare aussi, Jésus. Et merci, Seigneur, parce qu'ainsi, tu nous fais marcher dans tes bonnes voies d'amour et d'attachement à ta personne. Sois glorifié, notre Seigneur, notre Roi. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Quelques annonces. Que soient remerciés ceux qui ont soutenu la mission de cette semaine qui s'est déroulée à Châlons et ceux qui y ont persévéré et qui, donc, par leur persévérance à affronter les difficultés, ont assuré la réussite de cette mission. Voilà, déjà. Je rappelle qu'il y a une mission à Besançon à partir de demain et jusqu'à jeudi inclus. Alors, vous pouvez vous inscrire sans tarder, s'il vous plaît, pour y participer. Séance de questions bibliques ici, avec des réponses, donc mercredi à 19h15. Et la réunion de prière dans la foulée à 20h15 le mercredi, donc pas besoin de s'inscrire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous raccompagne.